Merci beaucoup et merci beaucoup pour les questions. Tout d'abord, je pense que les propositions et les éléments qui ont été proposés par l'ambassadeur des Pays-Bas sont tout à fait positifs. En ce qui concerne les perspectives et comment on peut aller de l'avant, je pense que la première chose à faire, évidemment, qui a été faite par beaucoup d'orateurs, c'est qu'on est face à un blocage politique et pas un problème technique. Et donc, dans ce contexte-là, il est absolument important de considérer les grands équilibres qui se posent. Évidemment, la question de la flexibilité est importante et on doit se poser la question. Et il y a sans doute des choses qui peuvent être faites, mais il faut réfléchir absolument à avoir l'équilibre qui fait qu'on ne va pas notamment perdre des États qui étaient attachés, par exemple, au format de négociation ici dans le cadre de la CD. On doit se demander, je l'ai fait un petit peu dans ma présentation, quels doivent être les États clés qui doivent participer aux négociations. Peut-être que demander ou exiger que les 9 États qui détiennent des armes nucléaires participent activement aux négociations est trop ambitieux. Mais on se rend bien compte que si on a dans les négociations que des États qui sont des États non dotés ou des États qui ont déjà adopté un moratoire, on aura sans doute un problème d'équilibre à ce niveau-là et un traité beaucoup moins efficace. Toutes les propositions changer un petit peu le format ou faire les choses différemment doivent évidemment prendre en compte et calculer tout ce qui peut être perdu par une telle décision. L'autre point sur lequel il faut un équilibre, c'est la manière dont on approche les négociations. Évidemment, c'est important de ne pas avoir des préconditions trop strictes et d'enfermer complètement le cadre des négociations et de négocier le traité avant même de l'avoir négocié ou d'avoir, encore une fois, quelque chose de trop strict en amont. Mais en même temps, il est essentiel que les États aient une idée à peu près claire de ce pourquoi ils négocient et ce qu'ils vont négocier pour éviter des incompréhensions majeures ou des blocages qui ne feraient que surgir très très rapidement à l'issue. Un troisième équilibre, je pense, important, a été déjà largement amorcé dans ce forum. C'est celui entre le travail préparatoire, le travail technique pour avoir des solutions et des propositions à faire et savoir un petit peu justement ce vers quoi on s'avance. Et puis, bien sûr, le débat politique qui reste essentiel. Et je pense que ce qui est important de reconnaître, c'est qu'aujourd'hui, on est devant un blocage, je l'ai dit, qui est de nature politique, qui est de nature stratégique. Certains États estiment qu'il n'est pas dans leur intérêt de négocier un traité d'interdiction de production des matières fissiles. Et la vraie solution de fond et la seule véritable solution, c'est de montrer ou convaincre à ces États qu'ils ont un intérêt stratégique dans la cessation de production de matières fissiles au niveau global et que c'est dans leur intérêt stratégique. Pourquoi ? Eh bien, je dirais que, évidemment, si un État s'oppose à ce traité aujourd'hui, c'est parce qu'il considère qu'il a sans doute besoin de produire davantage de matières fissiles pour assurer la crédibilité de la dissuasion. Mais on est aujourd'hui dans un contexte stratégique tel que l'on est vraiment devant la crainte d'une forme de course aux armements dans de nombreuses régions. Et donc, on peut se dire que tant que l'on n'a pas ce type de traité et de mesures restrictives, eh bien, c'est pas seulement un État qui peut continuer de produire, mais éventuellement ses adversaires potentiels. Et on se retrouve vraiment devant une spirale négative. Et je pense que, comme le disait l'ambassadeur de Klerk, le contexte actuel et l'environnement dans lequel on se trouve est vraiment propice à revoir cette analyse stratégique et à se demander si, en effet, il n'y a pas un véritable intérêt à avoir des mesures de régulation aujourd'hui. On est dans un contexte où on voit bien les risques de course aux armements, je viens de le dire, au niveau global, au niveau régional. Alors évidemment, ça ne veut pas dire que tous les États détenteurs d'armes nucléaires considèrent augmenter ni leur volume d'armes nucléaires, ni a fortiori leur stock de matières physiques. C'est pas du tout le cas aujourd'hui. Mais on peut se demander si, dans ce contexte de détérioration du contexte stratégique, peut-être demain d'augmentation des arsenaux dans plusieurs États, il y aura toujours un tel appétit chez certains États détenteurs d'armes nucléaires qui, jusqu'à maintenant, avaient été très fermement en faveur d'un moratoire et du FMCT pour toujours le considérer comme une priorité dans le futur plus éloigné. Donc je pense que vraiment, il y a un intérêt à reposer ce calcul stratégique aujourd'hui. Et puis je conclurai sur la question de savoir dans quelle mesure le FMCT est une mesure de non-prolifération et de désarmement. Mais je pense justement que ça a l'intérêt d'être une mesure qui combine ces deux objectifs qui ne sont pas du tout mutuellement exclusifs. Non-prolifération, évidemment, puisque pour les États non dotés, c'est un engagement supplémentaire qu'ils prennent, mais évidemment désarmement, puisque ça crée des contraintes très claires au niveau quantitatif sur les volumes d'armes nucléaires qui peuvent être produits. Et on voit bien que le FMCT est au cœur de logiques différentes du désarmement. C'est au cœur de la logique du désarmement par étapes. On le voit, par exemple, dans toutes les discussions qui ont lieu sur comment mettre en place un désarmement vérifié. On a parlé dans ce panel de l'IPNDV, par exemple. Systématiquement, la question du FMCT est considéré comme une forme de prérequis pour ce type d'approche, mais même pour d'autres approches, et en particulier l'approche du Tian, ce n'est pas exclusif d'une réflexion du type FMCT, puisque ce type de réflexion sur l'élimination d'armes nucléaires ne pourrait pas faire l'impasse de ce type de traité si des États possesseurs venaient à le rejoindre pour en assurer la crédibilité et le caractère vérifiable. Merci beaucoup.